Vous êtes sur RTL.
Au temps de Nicolas Sarkozy, de la racaille, rappelez-vous la plaque d'Argenteuil en 2008. Qu'est-ce que nous avons fait aujourd'hui? Qu'est-ce que nous pouvons faire demain pour que ça n'arrive plus? Pour qu'on n'ait pas des cercueils dans la cour des Invalides dans quelques jours, dans quelques mois? Pour pas qu'on dise à chaque fois plus jamais ça? Moi, je pose une question. Est-ce que c'est possible de faire peut-être bouger l'armée dans certains quartiers? J'entends déjà les Mélenchon, les Corbières qui vont être contre. Mais peu importe, ils représentent quand même. Je m'adresse à vous qui avez tous les pouvoirs. Si on ne fait rien, dans 2 ans, dans 3 ans, nous serons dans le mur.
Donc, l'intervention de l'armée, est-ce une possibilité, le renfort de l'armée?
J'entends ce que vous dites, monsieur, et je partage évidemment votre révolte. Sinon, je ne m'engagerai pas en politique et ce n'est pas facile, comme vous l'imaginez, d'aller voir des familles pour, en tant que ministre, leur dire que je suis le patron de ce papa qui est aujourd'hui sur la ligne d'hôpital. Ce matin, le garde des Sceaux a d'ailleurs parlé de l'armée. Il a dit pour les jeunes délinquants, pourquoi ne pas utiliser l'armée? C'est une piste qu'il suit et je pense que c'est un sujet qu'il faut effectivement continuer à faire. Mais vous savez,
vous
monsieur,
êtes favorable.
En tout cas, toutes les pistes du garde des Sceaux qui permettent effectivement de remettre de l'autorité. J'ai beaucoup parlé avec Éric Dupond-Moretti qui connaît bien ces sujets. Oui, je pense qu'il faut y réfléchir. Mais pour répondre à votre question, monsieur, il n'y a pas que l'État. L'État doit faire des choses. Lutter contre les stupéfiants, soutenir les policiers, leur donner des moyens. Bien sûr, vous avez raison, c'est avant tout l'État et les hommes politiques qui sont responsables. Mais enfin, il y a quand même un sujet parental. Les délinquants de 15, 20, 25, 30 ans, c'est quand même des gens qui peut-être ont connu une mauvaise éducation ou pas d'éducation. Il y a un sujet école. Remettre de l'autorité à l'école. L'enfant ne vaut pas l'enseignant.
Ça, ce sont des projets à très long terme. La question, elle est précise. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut faire intervenir l'armée dans certains quartiers?
Je viens de répondre à monsieur non. Je pense que la police et la gendarmerie suffisent. Simplement, il faut être présent. Et les policiers et les gendarmes le sont. Et quand ils le sont et que ça se passe pas bien, il ne faut pas se dire qui du voleur ou du policier a raison. Il faut d'abord soutenir le policier. Et il nous faut soutenir collectivement les policiers. J'ai beaucoup trop entendu de gens attaquant l'autorité et réclamant l'autorité après.
On a beaucoup de questions sur vos rapports et vos liens avec le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Isabelle, par exemple, sur l'application RTL. Comment un ministre de l'Intérieur qui privilégie le répressif et un ministre de la Justice qui privilégie l'éducatif peuvent-ils avancer ensemble?
Non, mais moi, je privilégie aussi l'éducatif. Vous savez, j'étais maire de Tourcoing, une commune qu'on pourrait qualifier parfois de difficile. Et je sais que la meilleure des choses pour la République, c'est l'école. Et c'est le dédoublement des classes. Emmanuel Macron, en faisant le dédoublement des classes, 12 gamins par classe, il aidera le prochain ministre de l'Intérieur dans 10 ans. Il aidera le prochain ministre de la Justice dans 10 ans. Donc il n'y a pas une feuille à papier à cigarette entre l'analyse d'Éric Dupond-Moretti et la mienne. On n'a pas toujours le même vocabulaire, pas le même style, pas le même âge, pas la même expérience. Je respecte la sienne.
C'est juste une différence de sémantique entre vous?
Profondément oui, parce que c'est important parfois la sémantique. Mais profondément oui, je travaille quotidiennement avec Éric Dupond-Moretti et je n'ai pas du tout l'impression qu'il a la main qui tremble.
On a une question de Maria qui nous appelle de Clermont-Ferrand. Bonsoir Maria.
Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Monsieur Darmanin.
Bonsoir Madame.
Bonsoir. Moi je vous appelle, j'ai une question à vous poser. Je ne comprends pas pourquoi en France on maintient des personnes étrangères qui ont commis des crimes, des délits. Pourquoi on les maintient? Alors je tiens à dire que je suis moi-même enfant d'immigrés. Et quand je parle d'étrangers, je parle de tous les étrangers, hein, portugais, italiens, marocains, peu importe d'où ils viennent, quoi. Pourquoi la France s'impose de garder des gens sur le territoire qui sont toxiques pour notre pays?
Madame, nous partageons tout. D'abord, je suis moi-même petit-fils d'immigrés par deux fois, mes deux grands-pères. Et je partage ce que vous dites. J'ai pas entendu. C'est bien comme ça que vous êtes défendu, mais vous n'êtes pas à vous défendre. Une moindre remarque raciste. Vous aimez la République et vous souhaitez que les gens qui soient là l'aiment aussi, respectent ses lois et ses valeurs. Donc vous avez raison. Et deux, c'est ce que nous faisons et c'est ce que j'ai demandé que nous fassions davantage. Toute personne, il ne s'agit pas de condamner les voleurs de pommes. Hein, toute personne qui ont fait des crimes de sang, qui sont en lien avec des entreprises terroristes, qui battent leurs femmes, qui ici ou là commettent des méfaits extrêmement graves, qui relèvent de la cour d'assises par exemple, doivent, une fois leur peine terminée, ça c'est le droit, être expulsés lorsqu'ils n'ont pas la nationalité française.
Est-ce que c'est le cas aujourd'hui?
Cette opinion. Alors tous les jours, je propose des expulsions. Alors, bien sûr, il y a des recours à cela, et la justice et les justiciables, évidemment, font leur office, donc c'est pas si immédiat que ça, mais oui, ça m'est encore arrivé deux fois ce matin, où j'ai demandé au préfet de le faire. tous les jours, je retire avec la ministre déléguée des processus de papier ou des processus de naturalisation lorsqu'on s'aperçoit que ces gens ont commis des méfaits extrêmement graves ou lorsqu'ils n'ont pas payé, par exemple, leurs impôts en fraudant. Donc oui, par exemple, il y a plus d'une trentaine de cas depuis que je suis ministre de l'Intérieur où on a arrêté des processus de naturalisation pour ces faits. Alors que madame soit rassurée, on peut faire mieux. Parce que les services de l'État peuvent encore mieux s'organiser, mieux se coordonner avec la justice. Et c'est mon rôle principal. D'ailleurs, dès vendredi, comme toutes les semaines désormais, je fais une réunion avec les services pour savoir où ça en est. Et je peux vous dire que ça, je le regarde quotidiennement et avec intérêt.
Question de Louis sur l'application qui a lu Le Figaro et qui nous dit qu'il a lu que Valérie Pécresse vous avait écrit pour demander que les visages soient dégagés sur les photos d'identité, sur les cartes de transport, les passes Navigo par exemple. Elle ne veut plus de voile, plus de foulard. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle, vous demande Louis.
Je n'ai pas encore pris connaissance de la lettre de Madame Pécresse qui a manifestement prévenu la presse avant de me l'envoyer. Donc j'ai lu l'article, j'attends de voir sa lettre plus profondément. Sur le principe, la carte de transport n'est pas une pièce d'identité. Donc il y a une question juridique. Elle pourrait d'ailleurs, me semble-t-il, mais je voudrais mettre des conditions à ce que je dis, elle-même l'exiger, puisque je crois qu'elle est présidente du syndicat des transports. Est-ce qu'il faut l'étendre à tous les cartes de transport ? Parce que c'est un sujet qui consisterait effectivement à la neutralité de la pièce qui deviendrait une pièce d'identité. Je n'y vois pas d'inconvénient. Il faudrait que nous en discutions un peu plus en profondément. Je ne pense pas que ce soit le sujet principal aujourd'hui de radicalisation ou d'insécurité, mais je comprends la demande de la présidente de région. On va regarder ça.
Question plus politique de Samira. Les régionales auront-elles bien lieu au mois de mars prochain ?
Selon toute vraisemblance, oui. J'ai proposé le décret de convocation des électeurs au Premier ministre cette semaine.
Ah, il n'a pas été publié encore le décret.
Non, il n'a pas été publié. Ouais. On a un petit peu le temps. C'est en général 4 mois et demi avant les dates officielles. Ce sera au mois de mars. Elles se tiendront au mois de mars. Donc d'ici 3 semaines, 15 jours, 3 semaines, nous publierons le décret.
Donc aujourd'hui, le report des régionales n'est pas une hypothèse ?
Personne ne m'a demandé de travailler sur ça.
Lydia vous pose une question plus politique. François Baroin ne veut pas aller à la présidentielle. Qui serait le meilleur candidat, les Républicains ?
Ceux que les Républicains choisiront. J'ai entendu que désormais...
Quelqu'un que vous connaissez bien, qui est Xavier Bertrand.
Il me semble qu'il n'est plus adhérent aux Républicains, c'est-à-dire toute la subtilité de ce qui reste de la droite des Républicains ou apparentés. Mais s'agissant d'une famille politique que je ne suis plus parce que je crois qu'elle s'est dévoyée, au lieu de soutenir le président de la République, elle a choisi la tentative de l'aventure. On voit bien où ça les a menés aujourd'hui. Je ne me permettrai pas de faire de commentaires.
Nicolas Sarkozy pourrait être un bon candidat ?
Le président Sarkozy a rendu des grands services à la France et il m'a dit plusieurs fois qu'il ne souhaitait pas refaire de la politique active et électorale. Il n'y a aucune raison que je ne le croie pas.
Hervé nous appelle de Meaux et une question pour vous, monsieur le ministre de l'Intérieur. Bonsoir Hervé.
Oui, bonsoir monsieur le ministre, bonsoir monsieur Ciotto.
Bonsoir.
J'aurais une question, sachant que le projet de loi de finances 2272 est en cours. Au-delà des moyens qui, j'espère, vont être octroyés pour permettre d'avoir des moyens matériels comme les gilets pare-balles, permettre plus de tirs, enfin, d'entraînement au tir, au genre de choses, aux forces de l'ordre, j'aurais aimé savoir si dans ce projet de loi, il y a un budget qui va être prévu aussi pour l'accompagnement et la formation des policiers et gendarmes, donc les forces de l'ordre en général. Parce qu'on parle du police bashing, on voit les policiers qui se font agresser. Alors, voilà.
Donc c'est question du soutien psychologique, hein, si j'ai bien compris votre question, Hervé.
Alors, pas que, je comprends que monsieur pose la question de la formation des policiers et des gendarmes pour qu'ils soient, comme toute activité professionnelle, et singulièrement celle-ci qui est très dure, très difficile, qui demande beaucoup de technique. Être policier et gendarme, c'est beaucoup de technique, beaucoup d'apprentissage. Donc la réponse est oui. D'ailleurs, on va se reposer la question de la formation. Je le dis à ce monsieur qui m'a posé la question, il a mille fois raison. La formation et l'entraînement, et pas simplement la formation à l'école, l'entraînement et la formation tout au long de sa vie. Et il y a des choses qu'on doit sans doute améliorer. Je vous en ai parlé par exemple pour le maintien de l'ordre. On ne laisse pas assez de temps aux CRS, aux gendarmes mobiles, pour s'entraîner et pour se former devant des manifestations qui ont changé depuis le temps où ils étaient peut-être à l'école de police. Et donc la réponse est oui. Vous savez, le budget du ministère de l'Intérieur, il augmente d'1 milliard d'euros. Alors, je me réjouis.
C'est moins que la justice. Vous êtes moins gâté que Éric Dupond-Moretti.
Parce que je crois que la justice a des sujets budgétaires encore pires que celui du ministère de l'Intérieur. Donc, moi, je me réjouis d'augmentation du budget du ministère de la Justice historique. Mais je veux dire qu'il y a eu 1 milliard d'augmentation. Et ce milliard d'augmentation, il ne va pas dans le fonctionnement. C'est très important. Il va dans le matériel. Un quart des véhicules qui sont changés. Vous m'avez reproché de dire bagnole, je dirais véhicule. Si vous voulez être plus administratif, voilà, bon, très bien. C'est pas important.
C'est pas fondamental.
Mais un quart des véhicules qui vont être changés. C'est très important, le parc automobile, de plus avoir des voitures qui font 200 000 km lorsqu'on est baqueux ou quand on fait la nuit dans la police. Donc oui au matériel, monsieur, une augmentation très forte du budget, et oui à l'humain, et notamment à la formation tout au long de sa vie de policier ou de gendarme.
Encore une question. Le 22 septembre, une jeune femme affirmait avoir été frappée à Strasbourg parce qu'elle portait une jupe, Gérald Darmanin. Le lendemain, votre ministre délégué Marlène Schiappa s'était rendue sur place. Sauf que l'enquête piétine. Est-ce que vous avez la certitude que cette agression a bien eu lieu, comme l'a raconté cette jeune fille aujourd'hui ?
Moi, je ne le sais pas. Je laisse l'enquête judiciaire se faire, par définition. Il y a une enquête. Ce qui est certain, c'est
il y a des doutes ?
Moi, je ne me tiens pas au courant des enquêtes judiciaires. C'est pas mon travail. Et fort heureusement de savoir telle ou telle activité judiciaire dans telle ou telle commune. En revanche, ce qui est sûr, c'est que des faits comme cela, il y en a. Alors, j'espère que cette dame n'est pas une affabulatrice. L'enquête le dira encore une fois, mais des faits comme cela, il y en a. Voilà. Et je pense que c'est le droit de toute femme de porter les vêtements qu'elle veut porter, à condition qu'ils ne touchent pas à l'ordre public. Voilà. Et je ne pense pas qu'une jupe touche à l'ordre public.
Une dernière question, c'est moi. Il faudra revenir parce qu'il y en a vraiment beaucoup encore des questions. Mais Maurice vous demande, des détenus condamnés pour terrorisme vont sortir de prison dans les prochains mois. Vous l'avez vous-même reconnu. Pourquoi les remettre dans la nature ? Alors, ils sont combien déjà à sortir ?
Alors, il y en a 67 qui sortent cette année, tout confondu.
En 2020
En 2021, pardon, excusez-moi,
2021,
c'était
d'accord.
À peu près 45 cette année 2020. Voilà,
alors pourquoi les remettre dans la nature
parce que, je voudrais dire à ce monsieur, qu'il y a un état de droit qui fait qu'on ne peut pas rester indéfiniment en prison lorsqu'on n'est pas condamné à des peines infinies de prison. Donc quand vous êtes condamné et que vous avez terminé, que la justice a considéré que vous avez terminé votre peine, vous sortez. Alors je voudrais dire à ce monsieur que c'est pas parce que vous sortez et que vous avez fini votre peine que vous n'êtes pas suivi particulièrement lorsque vous êtes particulièrement dangereux. Et je voudrais rassurer ce monsieur, même si je comprends son appréhension, et son appréhension est la mienne et celle du gouvernement. Nous mettons des mesures tout à fait importantes en œuvre pour pouvoir les suivre, notamment les suivre administrativement, des écoutes téléphoniques, des filatures, du renseignement. Et nous avons un sujet désormais de droit, puisque vous avez vu que le Conseil constitutionnel a censuré une disposition qui permettait notamment à la justice de continuer à pouvoir suivre ces personnes. Et donc on aura l'occasion, notamment cette semaine au Sénat, de pouvoir voir comment on réintroduit des dispositions peut-être qui permettront de pouvoir répondre à la censure du Conseil constitutionnel qui ne m'appartient pas de juger, c'est un fait, et de pouvoir mieux protéger les Français. Mais je voudrais dire à ce monsieur qui vous a posé la question que nous partageons son inquiétude. Tout le monde ne retourne pas dans la radicalisation en sortant de prison, ce n'est pas vrai, j'entends souvent ça, mais il y a bien sûr des hommes dangereux et des femmes dangereuses qui ressortent de prison que nous devons surveiller.
Merci beaucoup Gérald Darmanin d'être venu sur RTL ce soir. Je crois que vous êtes un tout petit peu emballé tout à l'heure sur le nombre de PV.
Oui, c'était 700.
C'est 700.
Voilà.
Et le nombre d'établissements qui ont été...
Ça, c'était le bon chiffre.
Donc c'est 2000.
Exactement.
2000 contrôles d'établissements par jour et 700 PV par jour pour...
C'était 7000 par semaine, à peu près 650-700 par jour. Pour les PV.
Vous n'êtes plus ministre du budget, vous n'avez plus la même maîtrise des chiffres.
Hein, non, mais c'est une erreur, il faut toujours être précis, vous avez raison.
Voilà. Merci en tout cas d'être venu nous voir et répondre aux questions des auditeurs d'RTL. Dans
Merci
un instant, eh bien, c'est Philippe Cavrivière qui vous a écouté et qui va nous raconter ça à sa manière. À tout de suite.
Thomas Soto, RTL Soir.